BFM Business présente l'émission qui vous sort de votre boîte. Happy Boulot, le mag, Laure Clauzier.
Bonjour à tous et bienvenue dans Happy Boulot, le mag. Cette semaine, on va décortiquer la stratégie RH de Donna, un groupe qui a mis en place de l'intéressement, mais indexé sur des critères RSE. On sera avec son DG dans un instant. On va parler aussi de l'avenir du métier de DRH avec Benoît Serre, vice-président de l'ANDRH. Et puis, si vous appreniez à gérer votre stress, mais dans un cockpit d'avion, on va voir ça dans un instant avec le cofondateur d'Aviasim. Il a mis en place des simulateurs de vol. Happy Boulot, le mag, c'est parti.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, l'exécutif de la semaine.
Et notre exécutif de la semaine, c'est Frédéric Auriol. Bonjour, vous êtes directeur général de Donna. Donna, ce sont les sandwichs, les salades qu'on trouve dans les aires d'autoroute notamment, qu'on prend à emporter. Vous avez 1500 salariés, dont 200 saisonniers, parce qu'il y a une activité saisonnière. On ne mange pas des sandwichs toute l'année.
Alors, on ne mange pas des sandwichs toute l'année et pas non plus des salades toute l'année. On a une activité saisonnière, puisque... Bah, c'est vrai que les salades, on en mange plutôt au beau jour. Donc, en fait, on a une consommation qui s'accroît à partir souvent du mois d'avril au premier beau jour. Et donc, notre activité a une forte croissance à cette période-là.
Vous êtes directeur général. Vous êtes à la place des DRH, puisque moi, je reçois normalement les DRH. Je reçois de plus en plus de directeurs généraux qui veulent venir parler à la place des DRH. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ça veut dire que l'humain prend de plus en plus de place, ou c'est une mauvaise nouvelle pour les DRH?
Or, je crois pas que ce soit une mauvaise nouvelle pour les DRH, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que l'humain prend de plus en plus de place. On a travaillé notre matrice d'enjeux et dans nos enjeux, on a ressorti un des enjeux prioritaires, c'est attirer, fidéliser, performer, donc autour du RH, et ça fait partie des enjeux de l'entreprise, de la stratégie de l'entreprise et pas uniquement la problématique des RH.
C'est quoi, vous dites, notre enjeu c'est de conserver nos salariés, c'est quoi votre point fort par rapport à la concurrence?
Donc on doit conserver nos salariés. Donc conserver nos salariés, c'est d'abord les amener et de les former en permanence, parce que on sait que c'est important. On réalise plus de 30 000 heures de formation par an, donc ça nous semble important. Et à la limite, demain, ce serait 40 000. En fait, on mettra le nombre d'heures nécessaires à former nos salariés. Ça, c'est le premier point. Et puis, fidéliser, c'est aussi, à un moment donné, reconnaître le travail. Donc, reconnaître le travail, ça passe par la partie rémunération et puis tout ce qui se passe autour de la rémunération.
Alors, la rémunération chez vous, il y a quelque chose de particulier. Il y a de l'intéressement en fonction des critères RSE. Oui. C'est quoi? Ça fonctionne comment?
Alors, on mène, comme beaucoup d'entreprises, une démarche RSE, mais on souhaite que notre démarche RSE soit perceptible par tous, et y compris par nos collaborateurs. Et notre intéressement s'appuie donc sur les 3 P, donc planète, people, profitabilité. Et donc, ces critères-là sont articulés pour calculer un montant d'intéressement.
Alors, comment ça fonctionne? C'est par site? C'est par individu? C'est global?
Alors, l'intéressement, il est par site, donc... On souhaite avoir une homogénéité entre nos sites, mais avec des particularités, puisque chaque site a ses particularités. Donc, on a, on va dire, un corps commun entre nos sites et les particularités sur les sites.
C'est-à-dire qu'il y a une enveloppe qui est la même globale, vous avez l'enveloppe d'intéressement, et chaque site a ses objectifs en fonction de sa particularité. Mais ça veut dire, vous mettez quoi comme indicateur concrètement?
Par exemple, alors, on a une activité industrielle importante, puisqu'on a 4 usines. Dans le P, parce qu'on parlait des 3 P, dans le P de planète, on va mettre par exemple la réduction de nos déchets, la réduction de nos énergies, que ce soit l'eau, l'électricité. Après, si on prend le P de people, on est très très attentif à l'accidentologie. On veut faire partie des meilleures entreprises, parce qu'on vient pas au travail pour se blesser, au contraire, on vient pour travailler et s'épanouir, et donc on mène des grosses actions pour faire baisser les accidents du travail chez nous.
Ça marche?
Alors ça marche, c'est des démarches sur du long terme. On a entamé la démarche il y a 3 ans. Il y a beaucoup d'accompagnement qui est fait par des cabinets externes. Ça, c'est pour amener de la méthode. Puis après, il faut que chacun acquiert cette méthode-là et puis la diffuse au sein de l'entreprise. On doit avoir une culture sécurité. La culture sécurité, elle se décrète pas, elle s'acquiert. Et donc, pour l'acquérir, ça prend du temps.
Mais globalement, vous arrivez à ce que tous vos sites aient l'enveloppe globale d'intéressement ou...
L'objectif, et on serait les plus heureux, c'est que l'ensemble des sites ait 100% de l'intéressement. Ça veut dire qu'on aura atteint nos objectifs, et quoi de mieux que d'atteindre ces objectifs, en fait.
Et les commerciaux, ils gardent leur objectif financier ou eux aussi, ils ont des objectifs RSE?
Les commerciaux ont évidemment aussi des objectifs RSE. Donc c'est un peu nouveau parce que souvent le commercial, on va le mettre sur la pourcentage de marge, sur le chiffre d'affaires.
C'est facile en fait, presque.
Là, c'est facile, ouais. Mais là, il y a aussi des critères RSE. Par exemple, l'éco-conduite. On a un challenge sur la réduction des excès de vitesse. Il y a tout un tas de challenges qui sont faits sur la partie people, justement.
Mais c'est-à-dire que vous êtes allé dans les métiers, vraiment aller regarder quels sont les objectifs RSE de chacun, parce que c'est très personnalisé, en fait.
Oui, en fait, c'est...
En fonction des métiers et des sites.
En fonction des métiers et des sites, tout en gardant un esprit collectif, parce que on est une entreprise, mais il y a des particularités ou des leviers sur lesquels on veut appuyer un petit peu plus, et donc c'est ça qui fait la particularité, soit des sites ou des métiers.
Donc ça, c'est la partie rémunération. Après, en interne, sur l'évolution des carrières, est-ce qu'on peut passer d'un poste en usine à un poste de siège?
On peut. Alors, on a toute une partie où on va rentrer comme opérateur. On a des cursus de formation interne pour passer à provisionneur, conducteur machine, conducteur de ligne, avec des crans de rémunération qui sont clairement affichés, qui disent, voilà, si moi demain je passe de opérateur à conducteur machine ou à conducteur de ligne, je sais que je vais gagner X% en plus. Et pour les accompagner, parce qu'il faut évidemment accompagner les personnes dans ce cadre-là, il y a de la formation qui est faite pour accompagner les personnes à acquérir les niveaux nécessaires.
En préparant cette émission, vous m'avez dit je suis obligée de créer les formations pour les métiers parce qu'elles n'existent pas. Pourtant, vous n'êtes pas le seul groupe d'agroalimentaire à avoir des postes en machine.
Et conducteurs de ligne, par exemple. Je pense que beaucoup d'usines en France recherchent des conducteurs de ligne. La formation type n'existe pas. Parce qu'on ne rentre peut-être pas dans la case, CAP, boucher, boulanger. Non, ça n'existe pas. Donc on crée avec des organismes de formation et nous en interne, des cursus de formation pour former les gens et acquérir ce savoir-faire.
Mais vous discutez par exemple avec l'éducation nationale ou avec des organismes de formation pour dire il faut monter des filières qui correspondent à nos métiers?
Alors on échange avec, mais vous savez
c'est
la pédagogie, c'est l'art de répéter. Donc on répète et on espère que des cursus vont réussir vraiment à sortir maintenant parce que on ne peut pas continuer à avoir des demandes de postes qui ne sont pas satisfaites parce qu'on n'a pas de la formation adéquate.
C'est quoi un talent pour vous?
Un talent pour nous, c'est une personne qui est engagée pour l'entreprise. Et donc, on fait, comme dans beaucoup d'entreprises évidemment, mais des revues de talent pour se dire, ben voilà, cette personne, on va parier dessus parce que il y a tel élément ou tel élément qui nous semble positif. Et donc, on va l'accompagner à travers une formation, à une perspective aussi de carrière, parce que c'est aussi important de donner de la visibilité aux collaborateurs. Et c'est comme ça qu'on essaye de travailler au quotidien.
Mais l'agroalimentaire, ça peut faire un peu peur. C'est-à-dire se dire c'est un secteur compliqué, où il y a des règles fixes à respecter, des règles de sécurité, des règles sanitaires. Qu'est-ce que vous dites aux gens qui hésiteraient?
En fait, il faut venir découvrir ce métier, parce que c'est vrai que souvent, vu de l'extérieur, c'est vrai que ce sont des métiers qui sont très normés. On parle beaucoup dans nos métiers de normes ISO, donc on est très normé. Mais il faut venir découvrir, parce qu'il y a aussi beaucoup de technologies dans nos métiers. On est de plus en plus des usines qui se digitalisent. Donc on voit bien que nos métiers sont en train d'évoluer. On modifie en permanence nos systèmes d'information. Donc on a besoin de tous les talents pour nous faire avancer sur ces sujets-là.
Mais vous dites, venez voir comment on travaille. On a eu plusieurs scandales sanitaires là, ces dernières semaines avec Buitoni, avec Kinder. Venez voir comment ça fonctionne chez nous. C'était Fleury Michon qui disait ça. Venez voir comment on travaille. Mais non, mais vous dites, il faut ouvrir les portes de l'agroalimentaire pour montrer ce qu'on fait.
Oui, il faut ouvrir les portes, montrer ce qu'on fait. On a chez Dona une culture très volontariste, notamment autour des alternants. Pour nous, c'est important. On rentre là cette année, on a 45 alternants, ce qui n'est pas assez à mon goût. On veut monter à 60-70 personnes pour pouvoir justement intégrer dès l'école les personnes et puis leur expliquer notre métier et puis qu'à un moment donné, ils arrivent à rentrer dedans.
Vous avez travaillé chez Delperra et chez Intermarché. L'agroalimentaire, c'est votre truc?
Je suis né dedans, je crois. Quand on est en Bretagne, il y avait une petite blague.
Vous auriez pu être marin, hein, c'est
J'aurais pu être marin. Je crois que j'ai pas trop le pied marin. Il y avait une blague souvent, puisque j'habitais à côté de Brest, et on disait si tu travailles mal à l'école, tu iras travailler dans l'agroalimentaire.
Ouais.
Bon, j'ai pas trop mal travaillé à l'école, mais j'ai quand même été travailler dans l'agroalimentaire, et pour moi, c'est une véritable passion.
Mais parce que c'était une voie de garage?
Ça pouvait sembler des voies de garage, mais en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'agroalimentaire peut offrir de très belles carrières et des belles progressions. Parce que justement, des gens se disent, je ne vais pas être dans l'agroalimentaire. Donc, des gens qui ont du talent vont venir et vont pouvoir se développer dans l'agroalimentaire.
C'est quoi votre objectif de recrutement sur l'année ?
Alors, sur l'année, aujourd'hui, on est à la recherche d'un peu plus de 200 collaborateurs. En CDI, parce qu'on développe aussi notre activité.
Et puis c'est énorme pour une entreprise qu'on a 1500.
Alors, on développe beaucoup, donc on a besoin de trouver ces collaborateurs. Alors, c'est tout type de poste, hein, ça va de opérateur à conducteur machine, à conducteur de ligne, à des cadres, à des agents de maîtrise. Enfin, à dire, on a une croissance importante qu'on doit continuer à accompagner. Et puis après, on a notre activité saisonnière, puisque là, on va arriver bientôt en pleine saison. Et là, on recrute à peu près entre 250 et 300 personnes pour passer la saison.
On va manger des sandwichs toute l'année.
Mais j'espère.
J'en ai moi-même mangé un hier, un triangle jambon fromage, un vrai délice. Merci beaucoup Frédéric Auriol d'être venu nous voir, directeur général de Dona. On va continuer à parler travail et travail hybride.
BFM Business, Happy Boulot, le mag, Better Together.
Et on va parler de l'avenir des DRH avec Benoît Serre, vice-président de l'Association Nationale des Directeurs des Ressources Humaines, la NDRH bien connue. Bonjour Benoît.
Bonjour.
On vient d'avoir ensemble le DG de Dona, donc je ne résiste pas au fait de vous poser la question, pourquoi les DG veulent désormais venir parler à la place des DRH. Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ?
On peut l'interpréter de deux manières. Soit il préfère parler lui-même, peut-être parce qu'il préfère passer le message lui-même et il se dit qu'après tout, il le fera mieux que son DRH. Soit les DG sont en train de se rendre compte qu'ils doivent commencer à incarner quelque chose dans le domaine des ressources humaines, des relations humaines, de la gestion des gens. Donc je vois, ça doit être ces deux raisons, mais dans les deux cas, c'est plutôt des bonnes raisons.
Mais est-ce que ça ne veut pas dire qu'il prend la place de la parole ? Est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose de stratégique dans le rôle du DRH qui se joue ?
En fait, ça dépend des moments dans l'entreprise. Il y a des moments où c'est le DG qui doit parler, parce qu'il embarque la totalité de l'entreprise. Il y a des moments où c'est le DRH, des moments où c'est le directeur financier. Je pense que c'est le moment de l'entreprise qui détermine. C'est pas forcément le profil de l'un ou de l'autre. Et puis, vous avez, comme partout, des DRH qui sont plutôt des communicants et des DRH qui sont pas très à l'aise avec ce sujet-là. Puis, il faut reconnaître, c'est pour ça que la NDRH essaye de travailler sur le sujet, que c'est une fonction qui est mal connue et donc c'est parfois une fonction qui est interprétée à tort d'une certaine manière. Vous savez, même moi, quand je discute avec des gens, ils me disent, mais en fait, ça fait quoi un DRH ? Les gens pensent que on passe notre temps ou à recruter ou à licencier, alors qu'évidemment, c'est une palette bien plus large. On l'a d'ailleurs vu pendant le Covid, en fait.
Mais alors, il doit faire quoi, le DRH demain, s'il veut prendre une belle place dans l'entreprise ?
Ah ben, je pense que ça, c'est un vrai sujet qui intéresse pour le futur. C'est-à-dire que on a vu pendant cette période que la fonction RH avait repris un peu du poil de la bête, en tout cas, était au centre du jeu, pour des raisons évidentes. Le sujet, c'est maintenant, c'est est-ce qu'ils vont y rester au centre du jeu ? Moi, je pense qu'il y a plusieurs conditions. La première, c'est sans doute que, dans un certain nombre de cas, les DRH adaptent leur posture. Qui soit une posture beaucoup plus en amont, beaucoup plus stratégique, et pas uniquement une posture pour exécuter, mais pour participer à la décision, parce qu'on se rend bien compte qu'aujourd'hui, toutes les décisions passent quand même par les hommes et les femmes de l'entreprise.
Donc ça, c'est une... C'est-à-dire qu'il est consulté en disant, sur le plan humain, ça suivra ?
Je pense que c'est très important d'avoir, quand on prend une décision d'importance dans une entreprise, d'avoir un peu trois critères. Un premier critère, est-ce que cette décision, elle est socialement acceptable ? Pas au sens des syndicats, au sens du corps social de l'entreprise. La seconde, c'est est-ce que les managers seront capables de la diffuser ou au moins de l'expliquer ? Puis après, évidemment, il y a la rentabilité économique. Mais c'est un équilibre des trois. Et si vous prenez cette espèce de triptyque de motifs de décision, on voit bien que le DRH doit jouer beaucoup plus, sans doute, un rôle majeur sur les deux premières.
Mais est-ce qu'il pourrait avoir un droit de veto ?
Ben, ça arrive que vous dites, vous disiez, écoutez, cette décision, elle est économiquement rentable, je doute pas une demi-seconde. En revanche, les risques sociaux que vous prenez à côté ou les risques managériaux risquent de la faire perdre en rentabilité et c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, on voit dans certaines entreprises, au moment des fusions-acquisitions, par exemple, que c'est souvent la dimension humaine ou la dimension culturelle qui bloque et qui finalement rend une décision qui, sur le papier, était financièrement parfaite, finalement opérationnellement imparfaite.
Vous avez fait une étude de l'NDRH et BCG sur l'avenir du travail, le travail hybride. Est-ce que le DRH, c'est aussi le chef de l'organisation désormais, le chef des plannings, celui qui dit, toi, t'es la lundi, t'es pas la jeudi, mais il faudrait quand même que tout le monde soit la mardi.
Ça serait bien que ce soit pas ça. En fait, l'enquête qu'on a faite avec l'NDRH-BCG, je sais pas si vous avez vu, en fait, on l'avait faite en 2020, donc c'était intéressant, deux ans après, puis presque fin du Covid, on sait pas trop, pour voir où est-ce qu'on en était. Il est évident que le sujet de l'organisation du travail va devenir un sujet central pour les DRH. DRH parce que le sujet de son hybridation est réglé. C'est-à-dire, cette enquête, elle montre que...
C'est intégré.
Ben surtout, une large majorité des DRH disent, à horizon 2025, 50% des salariés seront au moins à un jour télétravail. C'est une révolution. C'est une révolution dans tous les domaines, d'ailleurs, à commencer par le Code du travail, qui doit être repensé ou réévalué à l'aune de cette nouvelle organisation. Et puis, ça signifie que dès lors que le travail est hybridé, eh ben, l'organisation s'hybride. Et là, c'est plus la même règle, parce que ça veut dire que les gens sont pas toujours là, ça veut dire que le management à distance et le management à présence devient la règle, ça veut dire que l'hybridation des organisations, c'est qu'on peut avoir des compétences qui sont à l'extérieur de l'entreprise pendant un certain temps, ça veut dire que l'unité de corps social ne se mesurera plus que par un ciment qui est le sens, l'ambition, l'aventure collective et pas uniquement le lieu et le temps. Il faudra d'ailleurs peut-être se poser la question de comment on calcule le temps de travail, parce que qu'est-ce que ça veut dire quand vous avez 50% de votre équipe qui n'est pas là deux jours ou trois jours par semaine.
Mais le DRH, il n'est pas philosophe. Donc, qu'est-ce qu'il fait là-dedans?
Il n'est pas philosophe, je ne sais pas.
Non, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait des plans...
Non, mais je pense que justement, c'est un peu en rapport avec la question que j'avais avant. C'est-à-dire, le fait de partir du haut, d'être beaucoup plus en amont, ça signifie qu'est-ce que ça implique en termes de modèle d'organisation dans l'entreprise? Qu'est-ce que ça implique en termes de profil de manager? Qu'est-ce que ça implique en termes de modèle d'évaluation? Comment on restaure l'équité de traitement entre ceux qui peuvent télétravailler et pas télétravailler? C'est toutes ces questions-là que le DRH soit posé. C'est pas une affaire d'organisation. C'est une affaire de comment je fais fonctionner une sorte d'un nouveau corps social qui est un peu éclaté en deux et comment je fais pour le réunir. Donc je pense que c'est une question éminemment stratégique, ce sujet-là, qui doit effectivement donner lieu à un dialogue social d'un nouveau genre. Et je pense que le législateur, d'ailleurs on s'est étonné à la NDRH que les candidats à la présidentielle se saisissent pas vraiment de ces questions. Tout a changé dans le travail, mais on n'entend pas parler de au moins réévaluation, parce que le code du travail, il a pas été écrit pour ce monde-là, il a été écrit pour le monde d'avant, si vous voulez. Donc il faut sans doute regarder les choses. Il y a des problèmes très opérationnels, hein, comme le fameux remboursement, vous savez, des frais de transport. Mais vous avez aussi d'autres choses. C'est comment on comptabilise le temps de travail quand les gens sont pas là deux jours par semaine.
Il faut réécrire ce code du travail. Il faut se mettre autour d'une table et...
Mais je pense qu'en tout cas, il faut le réévaluer, regarder les articles qui concernent la comptabilisation du temps de travail, l'organisation du temps de travail, la liberté... d'organisation entre ceux qui peuvent télétravailler et ceux qui peuvent pas, peut-être les histoires de frais de transport, peut-être la prévention, la question de l'accident du travail aussi. Il faut le regarder au moins.
Mais est-on capable aujourd'hui de conserver un socle commun au vu des différentes... Si. Il faut que pour le code soit commun. On peut pas avoir un code pour ceux qui télétravaillent. Ah, oui. Il faut que ça reste commun.
Je pense que ça serait le pire du pire. C'est-à-dire qu'avoir un code du travail et un code du télétravail,
ça ne
ferait qu'aggraver le risque de scission de l'entreprise en deux mondes. Un monde qui est dans un régime de contraintes et un monde qui bénéficie d'une forme de liberté d'organisation. Parce que dans l'enquête qu'on a faite avec le BCG, il y a une chose intéressante, c'est que les DRH disent, les salariés disent, nous ce qu'on veut, c'est qu'on puisse injecter une part de flexibilité dans notre organisation du travail. Et ça, c'est presque le plus important.
Mais vous n'êtes pas pour non plus aller vers des conventions collectives qui gèrent les entreprises secteur par secteur et un micro-code du travail par entreprise ou par secteur.
On s'est rendu compte pendant ces deux ans de Covid où le dialogue social, il était vraiment au plus près du terrain avec des décisions prises en fonction de l'activité, en fonction de la réalité de l'entreprise, que le dialogue social par le bas d'une certaine manière, c'est-à-dire sur le terrain, il est bien plus efficace que le dialogue social qui part d'en haut. Ensuite, la deuxième chose, c'est que tout l'enjeu et des DRH, de la législation et des syndicats d'ailleurs, c'est un jeu à trois cette affaire-là, c'est quand même de s'assurer que l'entreprise reste unie malgré des différences d'organisation du travail. C'est pour ça que on dit par exemple, lorsque vous négociez un accord de télétravail, essayez de le faire en parallèle à un accord de qualité de vie au travail pour ceux qui ne sont pas bénéficiaires du télétravail. Sinon, on a un risque d'inéquité qui s'installe. Et dans une entreprise, l'inéquité, c'est quand même le sentiment le plus dévastateur.
Pour le premier tour, il n'y aura aucune discussion sur le code du travail. Non. Ça va être un peu court, mais peut-être pour l'entre-deux tours.
On a vu quelques trucs apparaître sur le compte épargne-temps, sur des choses comme
le
ça.
Le dividende
salarié, c'est des sujets importants. Mais enfin, vraiment, nous, on s'est étonné. D'ailleurs, j'ai eu l'occasion de l'écrire dans un journal, que d'une certaine manière, tout le monde considère que le travail a changé, son organisation a changé, le monde du travail a changé, les attentes des salariés ont changé, les attentes des candidats ont changé. Et pourtant, personne n'envisage de changer le cadre légal du travail en France. C'est quand même curieux.
Ça sera notre défi à nous personnellement. Merci beaucoup Benoît Serre d'être venu nous voir. On va continuer à parler de l'évolution du monde du travail et notamment de la formation. On va partir en avion.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. Business Case.
Et si vous appreniez à gérer votre stress grâce à un avion? On est avec Thomas Gasser, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes fondateur d'Aviasim, ce sont des simulateurs de vol et vous proposez des formations à des salariés dans des domaines extrêmement différents pour gérer leur stress. C'est utile, vraiment, de monter, de se dire tiens, je vais me prendre pour un pilote, je vais avoir des secousses, on va me mettre dans un... Et là, je vais apprendre à gérer mon stress.
Alors, c'est extrêmement utile. En fait, tout vient de l'Université de Columbia, qui a publié une étude il y a quelques années, en démontrant qu'en situation de stress, 60% des chirurgiens pouvaient augmenter leur risque d'erreur. En sachant ça, on s'est dit... Il y a plein de métiers où ce genre de choses n'a jamais été tenté, n'a jamais été testé, et les situations de stress, on en a connu beaucoup, notamment pendant la Covid. Et il y a plein de secteurs d'activité qui n'entrent pas dans leur formation, le fait de gérer une situation inédite.
Donc vous prenez Jean-Pierre qui travaille dans n'importe quelle entreprise, qui est chef, vous le mettez dans un simulateur, vous faites quoi? Vous secouez et vous regardez comment il réagit?
C'est pas aussi simple que ça. En fait, on travaille avec des entreprises qui ont des problématiques de stress inédites qui pourraient affecter leur fonctionnement. Typiquement, on a comme une de nos clientes, on a une banque, une grande banque française, qui s'est dit: mon service cybersécurité, il travaille tranquillement tous les jours dans une tour à Défense, mais il n'est jamais soumis au stress. Qu'est-ce qui va se passer le jour où il y aura une attaque majeure et tous les systèmes de la banque vont être en défaut? Eh bien, l'idée, c'est de travailler avec la banque en disant, on va créer un scénario dans un avion qui, du coup, va être complètement dépendant de leurs compétences techniques et va les faire prendre conscience de qui ils sont réellement quand ils sont soumis à du stress. Et ça permet de voir que les gens, quand ils sont soumis à du stress, ne réagissent pas forcément de la même manière.
Mais ils savent que c'est faux. À quel moment ils arrivent à se projeter et à simuler vraiment l'attaque?
Notre métier, c'est de créer des simulateurs d'avions. Mmh. On opère des simulateurs d'avions en France et en Belgique. C'est extrêmement réaliste. Et au bout d'un certain temps, votre cerveau oublie complètement que c'est virtuel. Et en fait, les gens se prennent au jeu. D'ailleurs, on entraîne des pilotes de ligne dans ces machines, donc c'est extrêmement réaliste. Et au bout d'un moment, les gens se prennent au jeu, ne savent plus qu'ils sont dans la virtualité, entre guillemets, et sont tellement stressés qu'ils vont se comporter comme s'ils étaient vraiment stressés dans la vraie vie.
Et là, vous les filmez, vous regardez comment ils réagissent et quel diagnostic vous leur faites après?
Alors, notre métier, nous, c'est d'opérer ces simulateurs, de préparer l'ensemble du retour d'exercice. Et ensuite, c'est souvent quelqu'un du métier principal ou un encadrant de l'entreprise qui va aller affiner le diagnostic avec le salarié ou les équipes en question.
Mais comment on arrive à calquer? C'est-à-dire, dans l'avion, tu t'es comporté comme ça, ça veut dire que dans ton métier, tu devrais plutôt faire ci ou ça?
Parce qu'on sort complètement du domaine technique. C'est-à-dire qu'on oublie que c'est un avion, ça pourrait être un avion, un simulateur de voiture ou plein d'autres sujets. L'idée, c'est pas de piloter un avion. L'idée, c'est juste de se retrouver dans une cabine avec ses collègues, soumis à une pression. L'intérêt de l'avion, c'est d'oublier l'ensemble des réflexes métiers et de devenir complètement neutre en termes d'acquis, de compétences, etc. et travailler sur la vraie personne, ce qu'on appelle les soft skills aujourd'hui. C'est vraiment qui vous êtes réellement en dehors des compétences techniques. Et on travaille uniquement avec des compétences techniques.
On a des surprises.
On a des énormes surprises. On a des gens à qui on prêterait aucun sens de l'organisation, qui d'un seul coup en stress se révèlent et deviennent des managers parfaits. Et dans d'autres cas, on a notamment avec des formations avec la police ou des métiers un peu plus compliqués, des choses qui sortent complètement du métier et qui permettent de faire prendre conscience à certaines personnes que
lui, il faut pas qu'il soit en situation de stress.
Exactement. En tout cas, il a besoin de retravailler cet aspect-là.
Et alors, vous leur faites faire quoi concrètement? On simule quoi? Une attaque?
Chaque programme de vol est différent par rapport à l'entreprise, puisqu'on travaille en amont avec l'entreprise pour travailler le sujet qu'on doit démontrer. Mais souvent, globalement, on va partir d'un vol très calme, et puis il va se passer une suite d'incidents qui vont mettre à mal la cohésion d'équipe, qui vont mettre à mal le programme établi, et on demande au manager d'apprendre à réagir sur le coup et de créer une stratégie pour pouvoir s'en sortir.
Vous travaillez notamment avec les médecins, avec les chirurgiens. Ils ont déjà, eux, ils ne connaissent pas parfois, eux, leur propre capacité à réagir dans des situations de stress. Qu'est-ce qu'on apprend quand on est chirurgien, quand on vient faire votre simulation? On a déjà vécu des situations de stress. On se connaît un petit peu.
Alors, oui, on se connaît. Et en même temps, la réalité montre que beaucoup de ces chirurgiens n'ont jamais été soumis à un vrai stress, ou en tout cas n'ont jamais été entraînés en situation de stress. Bien évidemment qu'ils ont connu ça, bien évidemment qu'en en bloc opératoire, de temps en temps, au fil de leur carrière, ils ont eu des incidents. Néanmoins, ils n'ont jamais pu apprendre de ça, et parce que chaque cas est différent. L'intérêt là, c'est de pouvoir s'entraîner sans faire victime. Et ces chirurgiens, ces médecins apprennent chez nous à se gérer, à se comporter en cas de stress, et surtout apprennent à se connaître. Une fois qu'on se connaît, se connaître, c'est la première étape pour pouvoir ensuite s'améliorer en situation de stress.
Merci beaucoup Thomas Gasser d'être venu nous voir, fondateur d'Aviasim, gérer votre stress grâce à un simulateur d'avion. C'est la fin d'Happy Boulot, le mag. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Je vous souhaite un excellent week-end sur BFM Business.
BFM Business, Happy Boulot, le mag. L'émission qui vous sort de votre boîte.